Idriss Assegouillard à la mise en onde de Fatouma Kal.
Péroua, Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 12 juillet 2023. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sebulia. Tout d'abord, les titres. Sommet de Vilnius, l'OTAN évoque une adhésion de l'Ukraine sans calendrier malgré les appels de Volodymyr Zelensky. Au Sénégal, l'opposant Biram Souley Diop, inculpé pour offense au président Macky Sall. En Guinée, 5 corps sans vie retrouvés après l'effondrement de 2 immeubles à Conakry. En Tunisie, 2 migrants retrouvés morts dans une zone désertique à la frontière entre la Tunisie et l'Algérie, où des dizaines d'autres errent abandonnés à leur sort. Au Kenya, le chef de la police interdit des manifestations de l'opposition prévues ce mercredi, les qualifiant d'illégales. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Lors de leur sommet à Vilnius, les membres de l'OTAN ont tenté hier de donner des gages à l'Ukraine, loin cependant des attentes de son président Volodymyr Zelensky, qui réclamait un calendrier d'adhésion, Jacques Aristide.
Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, a défendu la formulation forte retenue après d'âpres tractations. Nous serons en mesure d'adresser à l'Ukraine une invitation à rejoindre l'Alliance lorsque les alliés l'auront décidé et que les conditions seront réunies, ont dit les membres de l'Alliance. L'OTAN donnera à l'Ukraine la sécurité, l'Ukraine rendra l'OTAN plus forte, a pour sa part déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, s'adressant à la foule dans la capitale de la Lituanie, qui accueille jusqu'à ce mercredi ce sommet clé de l'Alliance Atlantique. Quant au président américain Joe Biden, il a évoqué pour l'heure un accord similaire à celui qui lie les États-Unis et Israël. L'État hébreu reçoit tous les ans plusieurs milliards de dollars de Washington en aide militaire, ce qui lui offre une visibilité à long terme. Dans le même temps, les pays du G7 ont prévu de faire une déclaration commune aujourd'hui sur des engagements de sécurité pour l'Ukraine. Avant même le communiqué final, la Russie a mis en garde l'OTAN sur les conséquences très négatives pour la sécurité européenne d'une adhésion de l'Ukraine. Il s'agit clairement d'un sommet de l'Alliance qui a un caractère anti-russe fortement prononcé, a fustigé Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies n'est pas parvenu hier à un consensus sur la prolongation d'une voie d'acheminement de l'aide à la Syrie, remettant en cause un mécanisme vital qui permet à des millions de personnes de recevoir une aide vitale, Jean-Roger Bion.
De nombreux membres du Conseil de sécurité ont soutenu une prolongation de 9 mois. La proposition a été rejetée par la Russie, dont l'offre de 6 mois n'a obtenu que le soutien de la Chine. Les 15 membres du Conseil de sécurité essaient depuis plusieurs jours de trouver un compromis pour prolonger l'accord qui, depuis 2014, permet d'acheminer par camion de la nourriture, de l'eau et des médicaments dans le nord-ouest de la Syrie vers des zones contrôlées par les rebelles sans l'autorisation de Damas. Le vote, d'abord prévu vendredi, a été reporté à lundi, puis à nouveau à mardi matin. Les convois humanitaires ont terminé leurs opérations lundi soir. Le corridor d'aide ne pourra pas reprendre ses activités tant que les Nations Unies ne l'auront pas autorisé à nouveau. Ce mécanisme doit être renouvelé tous les 6 mois en raison des pressions exercées par Moscou, alliée de Damas.
La Corée du Nord a tiré ce mercredi un missile balistique à longue portée au large de sa côte est, a déclaré l'état-major de l'armée sud-coréenne, ce qui constitue le 12e tir de missile effectué cette année par Pyongyang. Il intervient alors que la Corée du Nord s'est élevée dernièrement contre les activités militaires américaines, accusant des avions espions américains de violer l'espace aérien de sa zone économique et condamnant le récent passage d'un sous-marin américain équipé d'un missile de croisière à propulsion nucléaire en Corée du Sud. La Corée du Nord a procédé cette année à son premier tir d'essai de missile balistique intercontinental à combustion solide. Pyongyang a également tenté au mois de mai, sans succès, de lancer son premier satellite militaire.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Sénégal, Biram Souley Diop, un opposant au président Macky Sall, a été inculpé mardi, notamment pour actes de nature à compromettre la paix publique et offense au président de la République, a dit son avocat Moussa Sarr, précisant qu'il avait été placé sous mandat de dépôt. Monsieur Diop est président du groupe parlementaire de la coalition de l'opposition Yewi Askanui et cadre du PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, le plus farouche adversaire de Monsieur Sall. Après que le président sénégalais a annoncé le 3 juillet qu'il ne briguerait pas un troisième mandat en 2024, Monsieur Diop avait, dans une conférence de presse le lendemain, mis en garde contre un possible revirement de Monsieur Sall avant de présenter ses excuses. En Guinée, les corps sans vie de 5 personnes ont été retrouvés mardi sous les décombres de 2 immeubles en construction qui se sont effondrés la veille dans la commune de Matoto à Conakry, la capitale, a annoncé le gouvernement. Plus tôt, un premier bilan établi par un responsable communal et un ouvrier présent sur les lieux faisait état de 5 ouvriers et d'un enfant sous les décombres, soit 6 personnes recherchées. Le ministère de la Justice a ordonné l'ouverture d'enquêtes judiciaires, selon le gouvernement, qui a ajouté que le drame s'est produit sur le chantier d'un promoteur privé, MAC BTP, qui construisait des logements sociaux. Les corps de 2 migrants ont été retrouvés dans une région désertique de la Tunisie, près de la frontière avec l'Algérie. Cette découverte survient après que des centaines de migrants originaires de pays d'Afrique subsaharienne ont été chassés de la ville portuaire de Sfax, en Tunisie, après des tensions raciales qui ont éclaté le 3 juillet, Mohamed Houmfa.
Nombre de ces migrants ont été abandonnés à leur sort dans des zones désertiques éloignées, près des frontières de la Tunisie avec l'Algérie et la Libye. Beaucoup parmi eux tentent d'atteindre les oasis de la région où les habitants leur donnent de la nourriture et de l'eau, a déclaré un témoin. Il y a une dizaine de jours, un corps a été retrouvé dans le désert de Hazoua, près de la frontière algérienne, et un autre a été découvert lundi soir, a déclaré Nizar Skander, porte-parole du tribunal de district de Tozère, dans le sud-est du pays. Il indique que les autorités ont ouvert une enquête pour mort douteuse afin de déterminer la cause exacte des 2 décès. Les groupes d'aide et de défense des droits humains ont demandé que les migrants bloqués soient aidés de toute urgence. Ils estiment qu'il y a entre 150 et 200 migrants dans cette région, en citant des témoins, affirmant que plusieurs migrants sont morts près de la frontière algérienne. La Tunisie a connu une augmentation des attaques à caractère raciste depuis que le président Kais Saied a accusé en février des hordes de migrants sans papier d'apporter la violence dans le pays et a allégué un complot criminel visant à modifier la composition démographique du pays.
Au Kenya, le chef de la police interdit à l'opposition d'organiser des manifestations aujourd'hui, les jugeant illégales après la tenue de plusieurs rassemblements contre le coût de la vie chère et de nouvelles taxes annoncées par le gouvernement. Nanik Talani.
L'inspecteur général de la police, Jafet Koumé, affirme que les organisateurs des manifestations n'ont fourni à la police aucune notification concernant leurs actions prévues cette semaine. En conséquence, aucun rassemblement, aucune manifestation et aucun mouvement de protestation ne sera toléré. Tous les moyens légaux seront utilisés pour disperser de telles manifestations, a martelé Jafet Koumé dans un communiqué. L'Alliance Azimio de l'opposant Raila Odinga entend organiser des manifestations chaque semaine contre la politique du gouvernement de William Ruto qui a promulgué une série de nouvelles taxes malgré les critiques de la population touchée par une forte inflation. Lors de manifestations vendredi dans plusieurs villes, au moins 3 personnes ont été tuées. La police avait tiré du gaz lacrymogène à Nairobi et dans plusieurs autres villes pour disperser les manifestants.
Kenya toujours, c'est aujourd'hui que le président iranien Ibrahim Raisi entamera finalement dans ce pays sa tournée africaine, un jour plus tard que ce qui avait été annoncé selon Nairobi. Cette rare visite iranienne dans trois pays africains, le Kenya, l'Ouganda et le Zimbabwe, est une nouvelle étape de l'offensive diplomatique lancée par l'Iran pour trouver de nouveaux alliés sur la scène internationale. Ici aux États-Unis, les services de secours ont opéré mardi des évacuations d'urgence d'habitants dans le Vermont, État du Nord-Est, touché par des inondations historiques et catastrophiques après des pluies torrentielles. Des images diffusées par les autorités montraient des localités aux routes inondées et impraticables. Le président Joe Biden a proclamé l'état d'urgence pour le Vermont, permettant de débloquer des aides fédérales. Des pluies torrentielles jusqu'à 20 cm en certains endroits sont tombées entre dimanche et lundi dans tout le nord-est des États-Unis, notamment dans la région de New York où les inondations ont tué une femme qui tentait de fuir son habitation. La Minuteco, Nani Talani.
La Société pétrolière nationale du Nigeria affirme qu'un navire de 800 000 litres transportant du brut volé a été intercepté alors qu'il se dirigeait vers le Cameroun et a été détruit pour dissuader le vol de pétrole. Le navire MT Toura 2 appartenait à la société Olab Maritime Services, enregistré localement et n'avait aucun document valide pour transporter le pétrole. Le vol de brut dans les pipelines et les puits au Nigeria entrave la production du pays et constitue l'un des plus grands défis du gouvernement. En Afrique du Sud, la production manufacturière a augmenté de 2,5% en mai après une hausse de 3,6% en avril, a révélé mardi l'agence de statistiques. La production industrielle a par contre baissé de 1,3% après avoir augmenté de 0,7% en avril. Pour terminer, plusieurs investisseurs africains et internationaux ont signé à Lomé au Togo le nouveau fonds d'Africa 50 de 500 millions de dollars pour des infrastructures dont l'énergie, l'eau, les transports et les télécommunications. Cette initiative va jeter les bases d'un avenir meilleur, porteur de prospérité, de création d'emplois et de développement pour tous les Africains, a déclaré Alain Ebobissé, le PDG d'Africa 50, une structure créée par les États africains et la BAD.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La Côte d'Ivoire va livrer les infrastructures pour la CAN 2024 en août.
Oui, c'est ce qu'ont annoncé à Abidjan, responsable de la Confédération africaine de football et le ministère ivoirien des sports. Mi-août ou fin août, la CAF va recevoir toutes les infrastructures, puisque après le tirage au sort du 12 octobre, les équipes qualifiées vont visiter les stades. Nous sommes dans notre planning, a affirmé Samson Adamo, représentant du secrétaire général de la CAF. À ses côtés, le ministre ivoirien des sports, Paulin Dano, a déclaré, je cite, « Cela fait 40 ans que la Côte d'Ivoire attendait ce moment et je confirme la disponibilité des infrastructures que le pays mettra à la disposition de la CAF en août. » Fin de citation. En plus des 6 stades de compétition dans 5 villes, Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Kourougo et San Pedro, il est aussi prévu 24 terrains d'entraînement aux normes de la CAF, soit 4 terrains par stade. Concernant l'hébergement, Paulin Dano a affirmé qu'en plus des hôtels grand standing, il y aura 32 cités CAN construites pour isoler les athlètes et où les équipes seront sécurisées.
Messi est arrivé en Floride avant sa signature à l'Inter Miami.
La star mondiale du football est arrivée hier mardi en Floride, ici aux États-Unis, en amont de sa signature pour l'Inter Miami, selon des images de la chaîne américaine ESPN. Lionel Messi est arrivé par jet privé dans un petit aéroport jouxtant le stade de l'Inter Miami, club américain de la Major League Soccer. L'Argentin devrait signer un contrat de 2 ans et demi pour une rémunération de 60 millions de dollars par an. Le mois dernier, le septuple Ballon d'Or a annoncé qu'il rejoint le club de Floride. Après l'arrivée à échéance de son contrat avec le Paris Saint-Germain, l'Inter Miami a nommé l'ancien entraîneur du FC Barcelone et de l'équipe d'Argentine, Gerardo Tata Martino, à sa tête. Messi devrait faire ses débuts sur le terrain le 21 juillet contre le club mexicain Cruz Azul dans le cadre de la nouvelle Leagues Cup, un tournoi entre clubs de première division de la Ligue nord-américaine de football et de la Ligue mexicaine. L'Inter Miami est lanterne rouge de la conférence Est de la MLS et se classe 28e sur 29 clubs de la Ligue.
Merci Yacoub.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les membres de l'OTAN réunis à Vilnius, en Lituanie, cherchent à surmonter les divisions sur la candidature de l'Ukraine. Ils ont aussi finalisé la réflexion sur l'adhésion de la Suède à l'alliance militaire après un accord visant à lever le blocage de la Turquie. Pour une analyse, Nanit Talani a joint Johann Schmoensis, un porte-parole du département d'État américain, qui prend part au sommet de Vilnius.
L'adhésion de la Suède renforce l'alliance. La Suède est un partenaire fort qui possède des capacités importantes de défense. Et c'est un pays qui se situe dans une région stratégique et cruciale pour les concernes de l'alliance.
Alors, il y a aussi l'Ukraine qui fait une pression pour entrer dans l'Alliance Atlantique. Et quelle est la position de Washington?
Le processus d'adhésion de n'importe quel pays dans l'OTAN est un processus qui comprend des concerns de plusieurs membres, des États membres de l'Alliance. Il y a un processus qui normalement doit se poursuivre. La position du gouvernement américain est que l'Ukraine a toujours quelques réformes à entreprendre avant qu'il soit prêt à entrer dans l'Alliance. Et il y a une autre concern aussi qui est, comme le président a articulé récemment, que l'Ukraine, c'est un pays en guerre, actuellement en guerre. Nous prenons en très sérieux nos engagements sous l'article 5 de la Charte Atlantique. Et sous l'article 5, une attaque contre n'importe quel pays membre de l'Alliance, c'est une attaque contre tous les partenaires, tous les alliés. Et comme l'Ukraine est actuellement en guerre, l'adhésion immédiate de l'Ukraine représentera une escalation dans le conflit. Et c'est un conflit que les États-Unis souhaitent mettre fin.
Alors, pour terminer, que répond Washington face aux préoccupations de la Russie?
La Russie ne doit pas se préoccuper de l'Alliance l'OTAN, parce que l'Alliance est de sa nature défensive. Si vous voyez la disposition des forces de l'Alliance et les armes de l'Alliance, c'est une alliance de nature défensive. Et aucun pays membre de l'OTAN ne souhaite entrer en guerre ou bien n'a aucune ambition sur être territorial sur n'importe quel autre pays. Et il faut se souvenir que c'est la Russie qui a lancé la guerre contre l'Ukraine. Il peut terminer à n'importe quel moment. Par contre, si l'Ukraine cesse à se défendre, c'est-à-dire que c'est la fin de l'Ukraine.
Johann Schmoensis, un porte-parole du département d'État américain. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a donc donné lundi son feu vert à l'entrée de la Suède dans l'OTAN. Monsieur Erdogan bloquait cette entrée depuis mai 2022, reprochant notamment aux autorités suédoises leur mansuétude présumée envers les militants kurdes réfugiés sur leur sol. Pour une analyse, Mohamed Humfa a joué Didier Billion, directeur adjoint de l'Institut français des relations internationales et stratégiques, spécialiste de la Turquie et du Moyen-Orient.
La Turquie, depuis des mois déjà, accusait les autorités suédoises de protéger des militants, des réfugiés politiques qu'elle considérait comme des complices d'organisations terroristes, et elle pensait notamment au Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, qui est qualifié d'organisation terroriste par la Turquie, mais aussi par l'Union européenne, par les États-Unis, par le Canada, et d'autre part, les gulenistes, c'est-à-dire ces militants d'une organisation dirigée par Fethullah Gulen, dont M. Erdogan considère que ce sont les responsables de la tentative de coup d'État organisée en juillet 2016 contre lui. Donc, elle considérait que la Suède devait d'abord faire la preuve qu'elle était engagée résolument dans la lutte antiterroriste, pour qu'enfin la Turquie lève son veto à l'encontre de son entrée dans l'OTAN.
La Suède a-t-elle apporté ses garanties ou alors qu'est-ce qui explique le revirement, le volte-face du président Erdogan?
La Suède a apporté, il y a déjà plusieurs semaines, une partie de garantie, c'est-à-dire que, un, elle a modifié le texte constitutionnel suédois qui définit ce qu'est une organisation terroriste, et donc il y a là une avancée, puisque cette définition, qui a été votée en Suède, peut contenir le PKK et les sympathisants ou les militants de l'organisation de Fethullah Gulen. Donc, deuxième élément, on a constaté au cours des dernières semaines que deux militants réfugiés en Suède ont été expulsés de Suède vers la Turquie. La raison qui a été donnée par les Suédois, c'est que ces militants étaient des trafiquants de drogue, des trafiquants de stupéfiants. En réalité, nous savons parfaitement que ce sont des sympathisants ou des militants plutôt du PKK. Donc il y avait quand même la volonté de la Suède d'accéder à une partie des demandes de la Turquie plus loin. Et puis, la Turquie comprend bien qu'elle a tout intérêt aujourd'hui à être dans les meilleurs termes possibles avec l'OTAN et avec les membres de l'OTAN. Parce que l'OTAN, pour la Turquie, c'est la véritable garantie sécurité, l'assurance sécurité.
Cette affaire semble avoir montré l'importance de la Turquie en tant qu'acteur politique et diplomatique international. Que pensez-vous du rôle de la Turquie aujourd'hui au sein de l'OTAN et dans le monde en général ?
Oui, vous avez parfaitement raison. Et c'est d'ailleurs le titre de mon dernier livre qui est sorti il y a un an et demi maintenant. J'avais intitulé ce livre « La Turquie, virgule, un partenaire incontournable ». Au niveau économique, par exemple, la Turquie fait partie du G20. Donc en dépit de ses difficultés économiques actuelles qui sont réelles et très préoccupantes, elle n'empêche, elle fait toujours partie du G20. Au niveau géopolitique dans la région du Moyen-Orient, du Caucase, de l'Asie centrale, région particulièrement instable géopolitiquement, eh bien la Turquie est un facteur d'ordre, incontestablement.
Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS en France.
Washington Forum cette semaine avec Alexandrine Grolognon est consacrée au sommet de l'OTAN. La réunion des 31 dirigeants des pays de l'Alliance a lieu mardi et mercredi à Vilnius en Lituanie et se penche entre autres sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance. La Russie a déjà mis en garde l'OTAN sur les conséquences très négatives pour la sécurité européenne de l'adhésion de l'Ukraine. Par ailleurs, le président turc Recep Tayyip Erdogan a donné lundi son feu vert à l'entrée de la Suède dans l'OTAN. Quels sont les enjeux de la volonté de Kiev de rejoindre l'Alliance? Rendez-vous ce jeudi dans Washington Forum à 19h30 universel sur VOA Afrique et sur voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Human Rights Watch exhorte la Cour pénale internationale à enquêter sur les crimes de guerre au Darfour, au Soudan. Dans un rapport, l'ONG fait état de pillages, viols, exécutions sur base ethnique à Khartoum et au Darfour. Les combats se poursuivent malgré les appels à un cessez-le-feu inconditionnel et à une sortie de crise négociée. Yacouba Ouédraogo a joint à Paris Jean-Baptiste Galopin, expert à Human Rights Watch et co-auteur du rapport.
Le rapport que nous venons de sortir aujourd'hui est consacré à une attaque en particulier contre la ville de Mistéry, qui est une ville de l'état de Darfour occidental, près du Tchad, une ville d'environ 46 000 habitants, qui a été attaquée donc le 28 mai par une force conjointe de forces de soutien rapide, ainsi que de milices arabes qui ont combattu des combattants massalites qui étaient présents pour protéger la ville et qui ont tué un grand nombre d'hommes et tiré sur des civils de sans distinction au cours de cette journée. Les forces attaquantes sont notamment allées de maison en maison afin de trouver des hommes qu'ils ont exécutés sommairement. Ou alors ils ont également tiré sur des civils qui s'enfuyaient avant de piller la ville et de la brûler en l'espace de quelques jours, puisque les incendies ont continué dans les jours qui ont suivi. Le soir du 28 mai, les habitants de Mistéry ont enterré leurs morts, et ils ont notamment enterré au moins 59 personnes dans une fosse commune, et les autorités locales estiment que 97 résidents de Mistéry auraient été tués ce jour-là.
Mais justement, pourquoi cibler cette population de Mistéry?
Le Darfour occidental est une région qui a été un peu l'épicentre de cycles de violence depuis plusieurs décennies, hein, mais en particulier depuis 2019, dans un contexte où les forces de maintien de la paix de l'UNAMID, donc la force conjointe de l'Union africaine et de l'ONU, se sont retirées, laissant un vide en ce qui concerne la protection des civils. Et dans ce contexte, les communautés massalites qui avaient été victimes de nombreuses attaques répétées ont commencé à s'armer. Et donc, dans ce contexte, il y a eu de nombreuses vagues de violence qui ont eu lieu. Mais en ce qui concerne ces derniers événements au Darfour occidental, il y a un lien quand même assez clair avec le conflit à Khartoum, puisque les forces de l'armée et de la police qui étaient déployées dans certaines villes et villages du Darfour occidental se sont retirées au début du conflit, et ça a laissé le champ libre donc aux attaques des milices arabes et des forces de soutien rapide. Nous appelons la Cour pénale internationale à enquêter sur cette attaque de Mistéry dans le cadre de son enquête en cours sur le Darfour, et nous appelons également le Conseil de sécurité à appeler les parties au conflit à accorder un accès humanitaire sans restriction et en toute sécurité, notamment au Darfour.
Jean-Baptiste Galopin, expert à Human Rights Watch. Pour terminer, à l'occasion de la journée africaine de lutte contre la corruption, l'ONG Amnesty International a publié un rapport appelant les États d'Afrique de l'Ouest et du Centre à lutter contre la corruption et à cesser de persécuter les défenseurs des droits humains qui la dénoncent. Rosine Mounezero s'est entretenue avec Liliane Mouan, conseillère à Amnesty International, et fait l'état des lieux dans la lutte contre la corruption dans les pays en question.
La corruption est un phénomène mondial qui nie l'état de droit et impacte négativement sur la jouissance des droits humains, qu'ils soient individuels ou collectifs, garantis par les traités régionaux et internationaux. Nous constatons cependant que la corruption continue avec la même intensité en Afrique, et ce, dans un climat de restriction des droits humains et de l'espace civique, ce qui limite la capacité des défenseurs des droits humains qui luttent contre la corruption à demander des comptes à des acteurs puissants au sujet de la corruption et des atteintes aux droits humains. Nous avons pensé qu'il était important et nécessaire d'ailleurs d'attirer l'attention des citoyens africains, des États et des institutions africaines sur cette contradiction.
Dans votre rapport, vous demandez à ces États d'adopter des lois et des politiques et de mettre en œuvre des pratiques pour se protéger fermement contre la corruption. Est-ce que cela veut dire que ces lois n'existent pas dans ces pays?
Déjà, il faut préciser que notre rapport porte sur 19 pays dont s'occupe le Bureau régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Dans ces 19 pays, nous avons constaté que les autorités ont adopté des lois répressives pour restreindre l'exercice des droits fondamentaux et utiliser des lois qui existent déjà pour faire taire les voix critiques. Parallèlement, on se rend compte que les défenseurs des droits humains qui opèrent dans ces pays-là, qui essaient de combattre la corruption, sont confrontés à un manque de lois permettant de les protéger. Et donc, pour vous donner des chiffres concrets, parmi les 19 pays étudiés, il est fort de constater que seuls 3 pays, dont la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger, ont adopté des lois sur la protection des défenseurs des droits humains. On observe qu'un seul pays, dont le Ghana, possède une loi visant spécifiquement à protéger les lanceurs et lanceuses d'alerte. Et 10 des 19 pays ont adopté des textes concernant l'accès à l'information qui permettraient à la fois aux défenseurs des droits humains, mais à tout citoyen d'obtenir des informations détenues par des organismes publics et de demander des comptes. Bien sûr, cela ne veut pas dire que dans ces pays où on trouve ces lois, il y a une pleine jouissance des droits qui sont censés être protégés.
Liliane Mouan, conseillère à Amnesty International. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sévu.